Le texte que nous allons commenter se trouve dans la première épître de Saint Jean, au chapitre 3, versets 18 à 24. En voici la lecture. Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par les actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous aurons le cœur en paix. Notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Mais bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous tenons avec assurance devant Dieu, et tout ce que nous lui demandons, il nous l'accorde, parce que nous sommes fidèles à ses commandements, et que nous faisons ce qui lui plaît. Or voici son commandement, avoir foi en son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Et celui qui est fidèle à ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné son esprit. Alors l'épître de Saint Jean, la première épître, a beaucoup de points communs avec l'évangile de Saint Jean, notamment son insistance sur l'amour du prochain et la foi en Jésus-Christ. Et cette première épître est une constante, si vous la lisez en entier. C'est vraiment, c'est lié, aimer le prochain et avoir foi en Jésus-Christ. Voilà ce qui fait le chrétien. Alors c'est sûrement en réaction, effectivement, à ce qui se passait dans certaines communautés chrétiennes, parce qu'à première vue, cette épître de Saint Jean, quand on la lit de manière superficielle, elle paraît un petit peu douce et molle, abstraite même, aimer son prochain, aimer son prochain, aimer son prochain, bon ok, foi en Jésus-Christ, ok, mais en fait, si l'on gratte, on se rend compte que c'est un écrit qui est là pour répondre à une polémique qui se faisait jour dans les premières communautés chrétiennes, enfin vers la fin du 1er siècle, où il y avait des gens, sûrement des gnostiques, qui estimaient qu'il y avait mieux que la foi chrétienne et que Jésus-Christ n'était pas vraiment, c'était pas vraiment incarné, etc. C'est pour ça que si vous relisez la première épître de Saint Jean, le chapitre 1, il y a cette insistance sur le fait qu'ils ont vu toucher Jésus, et c'est pour ça que dans cette épître, il insiste beaucoup sur la foi en Jésus-Christ. Et l'originalité de cette épître, c'est de lier, et nous allons voir dans ce passage ce que ça peut vouloir dire, l'amour du prochain à la foi en Jésus-Christ. Parce que on peut bien comprendre l'importance qu'il y a à aimer le prochain, mais la foi en Jésus-Christ, malheureusement, ça nous paraît encore trop abstrait. Alors je vous propose un petit peu d'élucider tout ça en commentant ce texte. Il y a aussi une autre constante, et on le voit dans ce texte, c'est assez répétitif, c'est parce que chez Saint Jean, c'est le meilleur moyen pour, et c'est un moyen classique d'ailleurs, pour souligner l'importance d'une idée. Alors mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par les actes et en vérité. L'interprétation littérale paraît simple, et elle est à prendre bien sûr avec sérieux, donc là je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, donc la nécessité d'aimer, non pas simplement en parole, mais aussi en acte, tout simplement parce que en tant que disciple de Dieu, eh bien nous devons révéler quelque chose de lui, et ça on le découvre dans sa parole à lui, que Dieu n'aime pas en parole, mais en acte, ou que sa parole plutôt, c'est ses actes. Quand il parle, il crée le monde, et Jésus, parole de Dieu, c'est-à-dire cette parole de Dieu pour le monde, eh bien, c'est la croix, c'est nous aimer jusqu'au bout. Et nous pouvons remercier le Seigneur, vraiment de cet amour très concret, très agissant, où il n'y a pas cette dichotomie, cette séparation entre les actes et les paroles. Ce que Dieu dit, il le fait, ce qu'il fait, c'est dit. Donc, c'est pour ça que la parole, Jésus, la parole de Dieu et Dieu ne font qu'un. C'est ce qu'il a dit Jésus. Les deux sont de même nature. Deux personnes ne faisant qu'un seul Dieu. Et, entre parenthèses, oui, parce que si on dissocie la parole de Dieu, alors ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas Dieu et que Dieu peut avoir une parole et être différent de ce qu'il dit. Voyez aussi jusqu'où ça va de reconnaître la divinité du Christ. Et comme à l'image de Dieu, notre parole doit vraiment dire ce que l'on est Et il ne doit pas y avoir de faux semblants, de fausses paroles, d'hypocrisie en nous. Mais si on lit ces versets un peu plus en profondeur, on arrive à une interprétation qui est la plus profonde, qui peut paraître même assez différente de ce que l'on pourrait croire en vérité, ou en première lecture. Alors, si vous voulez ici, et mais en parlant en discours, si l'on regarde bien, opposé à un acte et en vérité, prenons d'abord ce que dit Saint Jean en acte et en vérité. On s'arrête tout de suite à acte, donc on pourrait très bien lire, donc nous devons aimer non pas avec des paroles et des discours, mais par les actes. Et on oublie très vite ce que Jean dit, et en acte et en vérité. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, l'amour que nous demande Dieu n'est pas l'amour que l'on fera très spontanément, et c'est les paroles et les discours. Parce que si l'on regarde, prenons des politiques, par exemple. Malheureusement, ils sont trop souvent caricaturaux de ce que veut dire ici Saint Jean. Un homme politique, il va agir, pas simplement par des paroles et des discours, il en fait, mais il va essayer d'agir, 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 parfois sans réfléchir. Et nous sommes trop souvent comme ça. Donc on dit beaucoup de paroles, beaucoup de discours, on veut faire, et des fois on fait beaucoup de choses, donc on fait, mais en superficie. Ce qui fait que ça a le même impact que des discours, des paroles, et finalement, ça touche peu les choses, ça influe peu sur les gens, ça influe pardon, ça influe peu sur les gens, et peu sur les circonstances, peu sur ce monde. Donc nous avons d'un côté nos propres actions, nos agissements qui ne sont pas faits en Dieu, qui se réduisent très souvent par des actes qui ne vont pas plus en profondeur que le sens péjoratif qu'on donne à paroles et discours. Et puis il y a d'un autre côté aimer en acte et en vérité. Donc aimer par des actes et en vérité. Aimer en vérité, c'est aimer dans le Christ, c'est aimer à sa suite, inspiré par lui. C'est ça, aimer en vérité. Le Christ a dit, je suis la vérité, le chemin, la vie, la vérité. Aimer en vérité, dans la bouche de l'apôtre Saint Jean, c'est vraiment aimer dans le Christ. Donc aimer à sa suite, aimer dans sa personne, c'est-à-dire aimer dans une union intime à lui, aimer avec lui, inspiré par lui. Eh bien, dites-moi comment ça peut se faire autrement que par la prière, la fréquentation de la personne du Christ par la prière, la lecture de la parole. Et si nous avons effectivement cette fréquentation, alors nous aurons une vision différente des choses, et nous verrons qu'effectivement, aimer en vérité, c'est d'abord aimer à la manière du Christ, c'est-à-dire quand ces guérisons étaient là, quand il agissait finalement, ce qui peut paraître concrètement par des guérisons, c'était le fruit d'heures et d'heures de prière qui précédaient. Eh bien, aimer en acte et en vérité, nos actes doivent être dans la vérité. C'est-à-dire que, à l'image de Jésus, nous devons être des gens d'intercession et de prière pour nos frères. Nous devons beaucoup prier et nos actes viennent comme accompagner, confirmer, si l'on peut dire, oui, notre prière et notre vie de foi et de prière. Donc, si je résume, vous avez la foi qui se résume à des actions sans prière, sans fréquentation du Seigneur, et donc qui va peu impacter les choses et les cœurs. Et puis vous avez le fait d'aimer en acte et en vérité, c'est-à-dire en prière, par la fréquentation du Seigneur, et nos actes viennent comme inspirés par notre prière, guidés par notre prière, et comme, si vous voulez, confirmer notre prière, l'appuyer, la prolonger. Et je ne peux pas empêcher de voir une façon d'aimer que nous donne le Seigneur. Aimer, nous devons aimer. Eh bien, tout simplement, intercédons pour nos frères. Et que les frères pour lesquels nous intercédons, eh bien, que nous ayons un surcroît d'amour pour eux, comme étant un prolongement de notre prière. Donc, nous ne devons pas comme divorcer ou séparer l'acte et la prière, ils ne font qu'un. À l'image de Dieu, pour qui la parole et l'agir ne font qu'un. Donc le Fils et le Père ne font qu'un. La parole de Dieu, Jésus, est à la fois cette parole et cette action du Père pour le monde. Eh bien, que notre prière, eh bien, ne fasse qu'un avec notre agir, notre action. Parce que finalement, notre action, c'est que ça doit être qu'un prolongement de notre prière. Vous voyez, donc, aimer, eh bien, c'est d'abord prier, intercéder, et puis, comment dire, nous aimons avec un but. Parce que aimer simplement pour agir sans la prière devient très décourageant, comme nous allons voir dans la suite du verset. Parce que nous avons l'impression que ça impacte peu les choses et que ça ne sert pas à grand-chose. Alors, on tombe dans l'agir, dans la philanthropie, et parfois dans ce qu'on appelle la charité, mais pas au sens biblique du terme, mais faire la charité, et c'est gagner son petit paradis. Et donc, c'est à l'encontre de ce qu'est la foi chrétienne, où l'amour a un sens, même ça paraît une arme faible, et si l'impact n'est pas immédiat sur ceux pour qui l'on aime, eh bien, nous savons que notre amour a un sens, que nos actes de charité ont un sens dans la mesure où ils dynamisent et comme accélèrent, dans la mesure où ils confirment, ils appuient notre prière que nous faisons pour nos frères. Et nous savons que notre prière, donc, qui est un geste de charité pour nos frères, eh bien, elle est comme dynamisée, si nous savons ça, qu'elle est comme dynamisée parce que prolongée et appuyée par nos actes de charité, eh bien, tout prend un sens et alors nous redoublerons de charité pour nos frères. Et nous redoublerons aussi de prières pour nos frères, pour lesquels nous posons les actes de charité. C'est ça, aimer en acte et en vérité, et non pas par des discours et des paroles, c'est-à-dire agir pour agir, et ça se transforme très vite en discours et en paroles. Alors continuons, en agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous aurons le cœur en paix. C'est ce que je viens de dire. D'abord, on agit en disciple, parce que agir en disciple du Christ, donc si nous aimons comme le résultat de notre prière et de notre foi, eh bien nous agissons en vérité devant Dieu. Et nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité parce que nous agirons dans la vérité en communion avec le Christ. Et nous aurons le cœur en paix parce que tout simplement tout prendra un sens. Nos actes de charité, comme je l'ai dit, pardon, prendront un sens. Évidemment, parce que nous verrons leur efficacité, certes à plus ou moins long terme, mais nous savons que la victoire est au bout du chemin. Nous savons que la croix conduit à la résurrection, que nos actes de charité posés, même pour les pires ennemis, eh bien, quand ils sont accompagnés, précédés et parachevés par la prière, eh bien, débouchent sur l'exaucement, la conversion comment dire, de nos frères, de nos ennemis, de tout ce qu'on veut, nos ennemis d'ailleurs qui deviennent nos frères. Parce qu'on intercède pour eux et ils font partie de notre cœur. C'est un petit peu ce que dit saint Paul, me semble-t-il, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, ou c'est plutôt Romains 12, où il dit que quand on fait des actes de charité pour ceux qui nous font du mal, on amasse comme des charbons ardents sur leur tête. Eh bien, oui, tout simplement, parce que c'est comme ça que, par ces actes de charité, par cette prière pour les ennemis que Jésus nous demande d'avoir, eh bien, nous. Comme saint Étienne par rapport à saint Paul, qui pardonne ses bourreaux, eh bien, c'est un agent puissant pour la conversion de nos frères, pour changer leur cœur. Alors saint Jean continue, notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Alors, c'est bien étrange, parce que saint Jean parle d'avoir le cœur en paix, mais il admet qu'il est possible que tout de même nous ayons un cœur qui nous accuse. Alors, c'est là toute la beauté d'aimer en acte et en vérité. Parce que si nous aimons sans cette dimension de prière qui accompagne notre action, d'abord il y a le découragement, il y a le fait qu'on a l'impression que ça ne sert à rien. Et puis même si nous prions et nous agissons, donc comme je viens de le dire, ce qui est l'équivalent d'aimer en acte et en vérité, et d'avoir le sentiment que nous appartenons à la vérité, il est possible que nous ayons des doutes, que notre cœur nous dise, mais ça ne sert à rien, ce que tu fais, ce n'est pas suffisant, etc., etc. Eh bien, sachons que Dieu connaît toutes choses, qu'il est plus grand que tout, et que tout est entre ses mains. Ce qu'il nous demande, c'est de prier avec ferveur et avec amour pour nos frères, Et quand il est possible de poser des actes de charité pour eux, quand il nous est donné de le faire, en prolongement notre prière. C'est déjà beaucoup, mais c'est suffisant parce que c'est tout puissant. Et n'essayons pas d'agir, d'agir, d'agir et de faire des tonnes, des tonnes, des tonnes de manière maladroite. Ce n'est pas par nos propres forces que nous toucherons le cœur de nos frères, que nous influerons sur notre propre cœur ou sur les circonstances. C'est bien en coopération avec Dieu dans la prière. Cette parole de Saint Jean, qui est aussi notre cœur aurait beau nous accuser, il faut faire attention parce que la culpabilité, très souvent on a accusé la foi chrétienne d'être génératrice de culpabilité. Mais rien n'est plus faux, parce que effectivement, nous sommes pécheurs. Mais si notre Dieu est un Dieu d'amour, nous remettons tout entre ses mains. Et si on aime en acte et en vérité, eh bien, voilà ce qui arrive. D'abord, par rapport à nous-mêmes. Il est fort possible que nous tombions, que nous n'aimions pas autant que nous l'aurions voulu, et que parfois nous péchions, que malgré nos efforts, nous retombions dans les mêmes travers, ou que nous essayons de poser des actes de charité pour nos frères, et parfois, nous n'arrivons pas à aimer ces gens pour qui nous prions, ou nous ne prions pas avec assez de ferveur pour eux. Eh bien, soyons convaincus d'une chose. Si nous sommes sincères, par exemple, nous avons un défaut et nous sommes tombés, malgré nos efforts et malgré notre prière qui accompagne nos efforts pour sortir de nos prisons, pour vaincre tel ou tel défaut, en nous ouvrant ainsi plus à Dieu, eh bien, sachons que si notre prière est sincère, même si nous avons des remords que notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses, donc il voit notre sincérité. Et comme il est plus grand que notre cœur, il est capable d'agir parce que tout simplement, le fait de se repentir avec sincérité est déjà source de progrès. Donc quand nous chutons, soyons sincères dans notre repentir et soyons convaincus que, eh bien, c'est un pas de plus vers la victoire parce que Dieu connaît toutes choses et il est plus grand que nos défaites, etc. De même pour nos frères. Quand nous n'arrivons pas à les aimer avec autant de charité que nous le voudrions, eh bien, sachons que si de tout notre cœur nous prions pour ces frères, pour leur bonheur, et que nous prions pour pouvoir les aimer davantage en demandant pardon à Dieu, eh bien, il nous donnera la force. Certes, il faudra peut-être du temps pour vaincre nos défauts, pour vaincre nos manques d'amour, mais comment dire, le chemin est là, c'est la ligne droite vers le ciel, c'est-à-dire la ligne droite aussi vers la victoire. Car nous savons, depuis la crucifixion, que la souffrance, que le péché que le Christ a assumé conduisent à la résurrection. Donc si nous savons que nos remords, s'ils se transforment en repentance, que ce soit parce que nous n'avons pas assez aimé nos frères ou parce que nous sommes tombés dans notre lutte contre tel ou tel défaut, eh bien, ces remords, s'ils se font repentance, sont source de victoire, parce que Dieu connaît toutes choses et sait que par notre repentance, par notre remords sincère, donc qui se transforme en repentance, eh bien nous nous ouvrons davantage à son cœur, eh bien la victoire est acquise, et Dieu peut au contraire beaucoup plus travailler en nous. Eh bien alors, arrêtons donc de nous culpabiliser, ayons cette foi, parce qu'il faut avoir vraiment confiance, s'abandonner à la miséricorde de Dieu, pour savoir que quand nous chutons, eh bien nos larmes et notre repentir, comme dit le psaume 51, eh bien tout ça, c'est source de victoire et de grâce et de résurrection. Et donc, ayez toujours à cœur cette parole. Et je dirais que même parfois, il nous arrive de ne pas prier avec ferveur pour tel ou tel frère. Nous disons, bon, il est loin de toi, Seigneur, etc. Tel défaut chez lui m'indispose. Seigneur, eh ben, je te remets tout ça. Et nous n'arrivons pas, nous jugeons nos frères, etc. Quand nous disons notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et nous avons des fois du mal, eh bien souvenons-nous d'une chose. Le Seigneur ne nous demande pas de nous forcer si nous n'y arrivons pas. Je peux très bien dire j'aime cette personne ou je la pardonne et ne pas la pardonner du fond de notre cœur. Mais dans Jean chapitre 15, pas l'Épître, l'Évangile de Jean chapitre 15, Jésus nous demande de prier en son nom et que tout ce que nous demanderons au Père en son nom, le Père nous l'accordera. Eh bien moi, il m'arrive aussi, hein, bien sûr, ben, je dis et moi, il m'arrive aussi, c'est bien prétentieux, comme tout le monde, et peut-être beaucoup plus que beaucoup de gens, il m'arrive d'avoir du mal à pardonner, etc. Surtout quand l'enfance vient de m'être faite. Ou alors d'être retombé dans un défaut et de penser que jamais je ne m'en débarrasserai et que là, la victoire de Dieu ne sera pas pleine et entière dans ma vie. Eh bien, je me dis, ben, Père, ce que je te demande, je ne suis pas capable de demander avec la miséricorde voulue, avec l'amour voulu, avec l'abandon voulu, mais je te le demande au nom de ton Fils. Et donc c'est Jésus qui présente cette requête, et là elle est parfaitement agréée. Le simple fait d'avoir dit je te demande au nom de ton Fils Jésus, c'est déjà un suprême acte d'abandon. Donc vous voyez, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas lieu, pardon, de culpabiliser et de s'accuser. Vous voyez, aimer en acte en vérité ne doivent pas nous amener à nous culpabiliser parce que nous n'aimons pas assez, nous n'aimons pas assez, c'est évident. Mais être plein de remords et vouloir en faire plus, non. Essayons d'aimer comme nous le pouvons, de prier comme nous le pouvons, que ce soit fait au nom de Jésus, nous souvenant que ce que Dieu nous demande, c'est la sincérité du cœur. Beaucoup de gens font des choses en mon nom, dit Jésus. Ils disent Seigneur, Seigneur, mais ils ne font pas la volonté du Père. Eh bien, tout simplement, la volonté du Père, c'est pas la lune, c'est simplement avoir un cœur sincère devant lui et vouloir faire sa volonté. Et quand nous n'y arrivons pas, nous abandonner à sa miséricorde. Eh bien, quand vous avez ça dans la tête, vous ne pouvez plus culpabiliser. Et la foi chrétienne, bien loin de vous conduire à de la culpabilité, vous conduit à la joie. La joie de vous savoir aimé et épaulé par ce Seigneur qui nous a envoyé Jésus comme avocat et intercesseur. C'est quelque chose de merveilleux. Donc n'essayons pas non plus, parfois nous avons l'impression, hein, quand on dit, faut aussi faire attention, quand je dis il faut intercéder et puis après poser des actes de charité par rapport aux gens pour qu'ils intercèdent. Parfois on ne peut pas poser beaucoup d'actes de charité, alors faut pas se forcer. Je veux dire, si l'occasion se présente, on le fait. Et Dieu suscitera des occasions, il faut être patient. Mais, ou même parfois on prie pour des gens que nous ne verrons jamais. Donc là, l'acte de charité que l'on peut poser qui accompagne la prière, c'est le jeûne. C'est pour ça que souvent le jeûne est mis en parallèle avec la prière. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais je parle par exemple par rapport à des gens que l'on connaît. On voudrait, on prie pour eux, alors on se dit, il faut que je pose des actes de charité. Non, il faut que ça soit naturel, il ne faut pas se forcer, il ne faut pas avoir de remords si nous n'arrivons pas à les aimer plus que de leur dire bonjour ou bonsoir, parce que tout simplement, ils ne veulent pas nous parler. Non, ne nous accusons pas, prions pour eux et demandons au Seigneur, en toute humilité, de nous donner beaucoup d'amour pour eux. Et parfois, ça se manifestera seulement dans la prière et par un sourire. Mais donc, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Alors continuons, mes bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous tenons avec assurance devant Dieu, et tout ce que nous lui demandons, il nous l'accorde, parce que nous sommes fidèles à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Vous voyez, nous avons une relation harmonieuse avec Dieu, c'est ça la foi chrétienne, c'est pas d'agir par soi-même, mais c'est cette foi harmonieuse avec Dieu, d'être fidèle à ses commandements et de faire ce qui lui plaît parce qu'on le connaît et on a envie de lui plaire, c'est ça qui fait que justement, nous avons ce que nous demandons, parce que nous demandons ce que Dieu veut. Voyez, quand je parle de prière, je parle surtout d'intercession, ou de prier pour la gloire de Dieu dans notre cœur. Parce que si nous prions pour avoir telle ou telle chose, etc., ce n'est pas de cette prière-là dont je parle. Ça, l'épître de Saint Jacques en parle. Souvent, nous ne sommes pas exaucés parce que nous prions pour satisfaire nos passions et nos jalousies. Et c'est la chair qui prie. Non, la véritable prière, c'est une prière qui est orienté vers Dieu, donc il y a la louange, la demande de pardon, qui est de savoir aimer Dieu à sa place, c'est-à-dire recevoir de Dieu. Comme le Fils reçoit du Père, non pas son pardon, mais il reçoit son amour. Mais nous qui sommes pécheurs, ça passe par le fait de recevoir le pardon de Dieu. Et c'est aussi lui demander, bien sûr. Jésus dit que la prière qui sera exaucée à 100%, c'est qu'il nous donnera l'Esprit Saint. Mais il dit pour nous, mais il ne précise pas que c'est que pour nous, c'est aussi pour nos frères, c'est-à-dire c'est la conversion. Car quand on reçoit l'Esprit Saint, on reçoit Dieu en personne, donc on se convertit, on se tourne vers Dieu. Eh bien cette prière qui est vraiment aimée en acte et en vérité, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ne peut être qu'exaucée, surtout quand nous comprenons qu'elle ne doit pas être source de remords et de culpabilité, mais source d'abandon et donc de gratitude vis-à-vis de ce Dieu miséricordieux qui connaît toutes choses et est plus grand que que nos remords, que les accusations de notre cœur ou de notre conscience. Eh bien, si nous avons, bien sûr, Notre cœur ne nous accuse plus. Nous pouvons vraiment nous tenir avec assurance devant Dieu parce que nous savons qu'il nous aime et qu'il ne nous exauce pas à contre-cœur, etc. Et il nous accorde tout ce que lui demandons parce que nous le fréquentons et nous demandons ce qu'il veut, parce que ce qu'il veut, c'est ce que nous voulons. C'est ça, faire la volonté du Père. Et donc, vous voyez, quand on lit ce verset, c'est ça l'originalité de la foi chrétienne. Ce n'est pas agir pour plaire, enfin, ce n'est pas en soi agir pour gagner son paradis, mais c'est vraiment, on sait qu'on est sauvé gratuitement. C'est ce que dit saint Paul à longueur d'épître. Ce n'est pas par vos actes, donc, que vous êtes sauvé, mais parfois par votre foi, par la grâce de Dieu. Eh bien, après, simplement, nos actions, ce que nous faisons, ce n'est pas pour sauver notre peau, mais c'est bien pour plaire à Dieu par gratitude. Eh bien, quand nous avons cette attitude, donc, que nous trouvons dans le fait de ne pas se laisser accuser par notre cœur ou par notre conscience, parce que nous fréquentons Dieu, nous commençons à penser comme lui, et alors nous agissons en acte et en vérité, c'est-à-dire gratuitement juste pour lui plaire, et par amour gratuit de nos frères, parce que nous aimons au nom de Jésus, nous demandons des choses au nom de Jésus, qui vient suppléer nos manques d'amour et nos limites. C'est très très loin de ce qu'est le bouddhisme, par exemple, ou l'islam, où nous avons une caricature parfois de ce que peut être gagner son paradis en sauvant sa peau. Enfin bon, ça c'est un autre problème. Alors, nous continuons. Or, voici son commandement, avoir foi en son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Maintenant, on comprend bien pourquoi saint Jean toujours met la foi en Jésus-Christ en parallèle avec s'aimer les uns les autres. Parce que nous n'arriverons à nous aimer les uns les autres que si nous avons foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est cette main tendue de Dieu vers nous. Et nous savons que cette main tendue, c'est la croix, c'est l'amour, c'est donc par l'amour, le sacrifice que Jésus fait de sa vie, il prend sur lui ce que nous souffrons, il l'épouse, comment dire, il la partage, et c'est par cet amour de partage de nos souffrances que justement il permet à l'amour vraiment d'agir dans le monde, et c'est cet amour qui nous sauve. Eh bien, nous savons maintenant que l'agir de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est la croix, et donc la résurrection aussi. Eh bien, quand nous avons ça en tête, nous comprenons maintenant que la seule façon d'aimer, c'est d'aimer d'abord, nourri par la prière, nourri par cette présence du Christ, parce que si nous aimons Jésus-Christ, alors les défauts des gens, nous les mettons en perspective. Ce n'est pas vraiment eux, c'est quelque chose de temporaire qui disparaîtra, justement, à la mesure de notre prière pour eux, qui va laisser agir la grâce de Dieu, cette grâce de Jésus-Christ, homme parmi les hommes, respect de la liberté humaine, se faisant homme pour que l'homme soit sauvé par les hommes, et cette action de Jésus-Christ que nous prolongeons, comme le dit Paul, il achève dans ses souffrances ce qu'il manque aux souffrances du Christ, eh bien ce surcroît d'humanité, nous le donnons à Jésus-Christ dans chaque situation où nous sommes, où par nous Jésus continue son œuvre de sauver les hommes par les hommes, respectant ainsi leur liberté. Eh bien ça se passe par nos actions, par nos paroles et par notre prière. Eh bien c'est ça, aimer en Jésus-Christ. Si nous aimons comme ça, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, donc nous ne jugerons pas nos frères parce que nous savons que après ils seront comme ressuscités, ils vont se tourner vers Dieu et que ce qui les enlaidit le péché et ce qui nous enlaidit n'est que temporaire. Et donc au lieu de les juger, nous redoublerons de prière et d'amour pour eux. Donc en étant bien convaincus que par là nous influerons sur leur vie et que nous influerons sur la croissance de la graine qui a été semée dans leur cœur, cette graine de grâce qui est souvent déjà semée pour les baptisés, et pour les non-baptisés, eh bien, cette graine germera aussi. Et comment dire, pour les non-baptisés, ben, la conversion s'exprimera par leur demande de baptême. Et pour ceux qui sont déjà baptisés, eh bien, ils feront la conversion du baptême de l'Esprit, c'est-à-dire vraiment se tourner vers Dieu et se rendre compte que la foi chrétienne, ce n'est pas simplement être baptisé et dire vaguement je crois. Et même à la rigueur d'aller à la messe le dimanche et le reste de la semaine, eh bien Dieu qui reste au ciel. Ce n'est pas ça. Donc voilà. Donc nous aimerons nos frères avec cette conviction que ce qui les enlaidit, eh bien, finira par disparaître. Dans ce cas-là, il n'y a plus matière à les juger, mais bien à les aimer et à intercéder pour eux. C'est ça, avoir foi en Jésus-Christ. Et c'est comme ça que nous arrivons à nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Et les aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé, c'est, je disais, aimer nos frères, donc loin de Dieu, mais c'est aussi aimer nos frères qui sont déjà chrétiens, parce que malgré tout, nous conservons des défauts, et parfois il y a des divisions dans l'Église, mais elles doivent être aussi source d'intercession pour aussi que là la conversion et l'action de Dieu agissent. Bon, je ne ferai pas évidemment, j'insisterai pas lourdement sur le fait que quand les chrétiens s'aiment vraiment les uns les autres parce que ils se souviennent que nous sommes disciples du Christ, eh bien, ça a un impact énorme sur les autres du dehors. Alors, et celui qui est fidèle à ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Bien sûr, si nous aimons constamment, nous nourrissons de la présence de Jésus. Donc en lui demandant de nous apprendre à aimer et en nous demandant vraiment de prolonger, comment dire, notre amour dans le monde invisible, c'est-à-dire dans le monde de la grâce qui agit dans les cœurs de nos frères, justement qui s'exprime par notre intercession, si nous avons constamment cette idée que, plus qu'une idée, cette conviction que vraiment nous prions Jésus, ou nous prions Dieu au nom de Jésus, donc pour que vraiment, eh bien, la grâce croisse en nos frères, et que les petits actes d'amour qui nous seront donnés de poser par rapport à nos frères, eh bien, ça sera comme un prolongement de cette prière. Eh bien, là, vraiment, ça sera vraiment les aimer avec cette foi en Jésus-Christ. Et ça sera comme demeurer en Dieu, parce que Dieu sera la source de cet amour, il sera aussi la raison de cet amour, parce que nous savons que cet amour qui s'exprime par l'intercession et par des actes de charité qui nous sera donné de poser, eh bien, ça sera source de victoire et de résurrection pour ce monde, pour nos frères, pour nous-mêmes aussi quand nous faisons des efforts. Eh bien, dans la mesure qui nous est donnée, nous ferons les efforts que nous pourrons, avec foi et conviction. Eh bien, tout ça, c'est vraiment demeurer en Dieu. Vous voyez, parce que aimer juste pour gagner son paradis, Dieu est bien absent. On ne travaille pas en coopération avec Dieu. Mais si on travaille avec Dieu en nous demandant qu'il nous aide à aimer, en nous demandant vraiment qu'il appuie nos actes de charité par le travail de sa grâce, c'est ça l'intercession, eh bien nous demeurons Dieu, parce qu'il est toujours présent à notre esprit. Il est la raison d'être de nos actions, de notre prière. Et donc le texte continue, et nous reconnaissons qu'il demeure en nous, donc Dieu et Jésus-Christ, donc puisqu'il nous a donné son esprit. Alors là, vous voyez, il nous faut faire toujours regarder à la Trinité pour bien comprendre ce qu'est l'amour. Le Père se pense, enfin c'est, comment dire, le Père, je vais faire une petite digression trinitaire, mais j'espère qu'elle vous aide vraiment à comprendre ce que peut être Dieu. Enfin, dans la mesure où nous pouvons le comprendre, bien sûr, hein. On se pense toujours nous-mêmes. Nous avons une vision de nous-mêmes. Le Père, quand il se pense lui-même, ce n'est jamais égoïste, mais c'est une ouverture à l'autre. Eh bien, c'est une autre personne, libre, c'est le Fils. Et forcément, quand le Père se pense, il donne, il engendre, on pourrait dire, de toute éternité. C'est cette pensée de lui-même qui est ouverture, générosité, liberté, qu'est le Fils. Et le Fils, forcément, eh bien, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Gratitude, amour reçu et donc donné en gratitude. Et cet échange d'amour, cette communion est tellement vive que c'est, comment dire, comme un enfant qui est le fruit de l'amour d'un père et d'une mère, eh bien, c'est l'esprit. L'esprit, c'est vraiment cet amour qui accompagne le Fils, cet amour vivant qui accompagne le Fils de la part du Père, et cet amour vivant qui accompagne le Père de la part du Fils. Eh bien, en devenant disciples, nous sommes au bénéfice de cet esprit. Cet esprit et cette personne, ce sceau de l'amour vivant de Dieu qui nous accompagne, eh bien, nous savons que Dieu demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. Donc, il faut être conscient que Dieu ne nous demande pas simplement, voilà mes commandements, tu dois aimer comme ça, tu dois faire ceci. Il nous donne son esprit. Il nous donne donc cette force vivante, cette personne vivante, qui est force de Dieu, pour nous aider à accomplir sa volonté. C'est ce que je disais tout à l'heure quand nous nous accusons parfois, à tort, de ne pas en faire assez, ou que nous n'arrivons pas, etc., ou que ce que nous faisons est bien inutile. Mais sachons que l'Esprit nous est donné justement pour nous qualifier pour cette action, pour ce témoignage que Dieu nous demande d'avoir, ce témoignage de charité et de prière au cœur du monde. Eh bien, sachons que nous ne sommes pas seuls. En nous, il y a ce sceau de l'amour de Dieu, du Père et du Fils, cette communion vivante, comme un peu une femme enceinte. En nous, il y a cet amour vivant qu'est l'Esprit de Dieu qui est là pour nous aider. Tournons-nous vers l'Esprit pour qu'il nous aide à mettre en œuvre les commandements de Dieu. Avoir foi en Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres. Nous ne sommes pas seuls pour nous débrouiller, nous sommes aidés par l'Esprit, par cet amour du Père et cet amour du Fils qui se tourne vers nous pour vraiment nous prendre dans ses bras. Eh bien, soyons vraiment convaincus que nous ne sommes pas seuls pour nous apprendre à nous abandonner à Dieu, à vraiment comprendre l'immensité de sa miséricorde et vraiment nous apprendre à donner bien pâle image de ce qu'est l'amour de Dieu, mais malgré tout, l'Esprit peut nous aider à donner l'amour que nous pouvons. Il est là pour justement ouvrir notre capacité d'aimer, ouvrir notre cœur, pour que petit à petit, nous arrivions de mieux en mieux à montrer quel est cet amour du Père et du Fils pour l'humanité, même si ça n'en restera toujours, bien sûr, qu'un faible reflet, jusqu'à ce que dans la vie éternelle, tout s'accomplisse. Et que, comme le dit Saint Jean d'ailleurs, nous le voyons ce Fils, donc tel qu'il est, et nous ayons une pleine communion avec le Père et donc avec nos frères. Voilà. Donc, je vous propose maintenant de prier, si vous le voulez bien. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix, et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire vôtre cette prière. Eh bien, Esprit Saint, c'est vers toi que nous tournons d'abord. Esprit Saint, aide-nous vraiment, Esprit Saint, à savoir que nous sommes aidés de Dieu pour aimer davantage Dieu, c'est-à-dire nous abandonner davantage, tel le Fils, à l'amour du Père. Et tu es là aussi, Esprit Saint, pour nous apprendre à aimer davantage nos frères. Oui, Esprit Saint, aide-nous à aimer Dieu et nos frères. Esprit Saint, tu es appelé dans l'évangile de Saint Jean le défenseur. Défends-nous vraiment contre nos culpabilités, nos remords qui nous empêchent de nous repentir pleinement en laissant la miséricorde de Dieu se déverser en nos cœurs. Esprit Saint, toi le défenseur, vraiment, aide-nous à avoir davantage la foi en l'action de Dieu, en son amour tout-puissant qui travaille avec douceur, lenteur et patience, mais avec une telle profondeur. Oui, vraiment. Et ainsi, vraiment, nous aimerons nous aussi en profondeur si nous sachons aimer en acte et en vérité, et non pas seulement par des paroles et des discours. Oui, Esprit Saint, approfondis vraiment notre foi pour approfondir notre charité. Amen. Fin de l'enregistrement.